Voilà, pour ce matin, moi j'aimerais qu'on lise un texte, parce que vous savez que la persécution, malheureusement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. Hein. Et puis, ça se retrouve souvent dans les mêmes parties du monde aussi. Le texte que je voudrais lire se passe en Irak, à côté de Bagdad aussi. Et là aussi, à cette époque-là, qui était bien, bien, bien longtemps avant Jésus-Christ, il y avait déjà des problèmes. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans Daniel. Daniel chapitre 3, à partir du début. C'est un texte qui est un petit peu long, je n'ai pas l'habitude de lire des textes trop longs, mais ce matin on va le faire parce que c'est une histoire. C'est toujours dommage de couper le début des histoires. Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or de 30 mètres de haut. Vous imaginez une statue en or de 30 mètres de haut. C'était pas mal comme truc. Hein. Et 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants de la province pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, là je vous passe la liste, vinrent et se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Et un héros proclama à voix haute. À vous, peuple, nation et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous voyez que les instruments de musique, ça ne sert pas qu'à louer Dieu, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera aussitôt jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son des instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains dirigeants vinrent porter des accusations contre les Juifs. Donc, pour situer les Juifs, là, Jérusalem a été envahie, plus ou moins rayée de la carte, et ils ont été déportés dans différents endroits. Et certains ont été déportés à Babylone. Et puis, Daniel et trois de ses compagnons ont fait partie des jeunes gens qui ont été déportés à Babylone et qui sont devenus en fait des fonctionnaires du royaume, hein, même si c'était des juifs déportés, et qui avaient des places importantes. Et puis, ça ne plaisait pas à d'autres personnes, donc ils essaient de profiter de l'occasion pour les éliminer. Hein. Et ils s'adressèrent au roi et lui dirent que le roi vive éternellement, ô roi, sa majesté, patati patata, je vous abrège toutes les listes à chaque fois. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner, d'adorer la statue, sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone. À savoir, puis là c'est leur nom, pas leur nom juif, mais leur nom babylonien. J'ai toujours aimé ces noms, Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas pourquoi les familles chrétiennes n'appellent pas leurs enfants, un peu pour changer, hein, au lieu de Matthieu, Marc, Paul, Shadrach, Meshach et Abednego. Avis aux amateurs. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. On voit que la politique, c'est toujours pareil, hein, ça ne change pas. Alors le roi s'irrita, entra dans une grande colère, il ordonna de faire revenir Shadrach, Meshach et Abednego, et on les amena devant le roi. Et c'est là que ça devient intéressant. Celui-ci prit la parole et leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai fait ériger ? Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son des instruments de musique à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent, « Ô roi, ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains, ô roi. » C'était poli, hein, c'est incroyable. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego. À la fin du message, je vous aurai appris les noms, hein, vous pourrez les regarder. Et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. On va s'arrêter un petit peu là déjà. Cette histoire, elle est pleine d'actualité et je dirais dans tous les pays du monde, on retrouve ça, mais dans beaucoup de pays dont on a parlé ce matin, c'est une réalité, j'allais dire, littérale. Hein. C'est vrai aussi dans nos pays, hein, si on veut vivre honnêtement et correctement, etc., il y a aussi des formes de persécution. Mais là, c'était très, très littéral. Et ces 3 hommes s'étaient attirés des ennemis parce que il dirigeait honnêtement les affaires du royaume. C'est toujours intéressant que c'est rarement en faisant le mal qu'on s'attire des ennuis, plus souvent en faisant le bien, surtout à grande échelle. Et là, il y avait des jalousies et on veut les supprimer. Hein. Donc on s'aperçoit qu'ils ne sont pas comme les autres. Oui, ils travaillent bien, oui, ils sont honnêtes, oui, ils ne volent pas, oui, ils ne sont pas corrompus, oui, les provinces qu'ils dirigent marchent mieux que les autres. Mais justement, comme on ne peut pas les corrompre, comme on ne peut pas... on va trouver un moyen de les attaquer, et là, c'est leur foi. Et puis, il y a tout ce qui se passe là. Mais ce qui est magnifique, c'est quand on les amène devant le roi, hein, et puis cet homme-là, ben, comme beaucoup de présidents, de puissants de nos jours, a l'impression qu'on est obligé de lui céder. Hein, il est le plus fort. Puis effectivement, c'était quand même quelqu'un qui avait un sacré pouvoir. Hein. Et c'est très très beau de voir ça, parce qu'il leur dit, et si vous refusez, vous serez jetés dans la fournaise, et quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer de mes mains? Voilà, c'est genre, Dieu, on ne le voit pas, moi je suis là, moi j'ai mon four qui est tout près là, bien chaud, je suis prêt à vous jeter dedans, et qui va vous délivrer? Et la réponse de ces 3 hommes est assez incroyable. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Au roi, et il reste poli en plus, hein, c'est assez joli. Quoi. Notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas tes dieux. Et ça, je trouve ça... eux, ils ne savaient pas s'il allait avoir un miracle. Hein. Nous, on le sait, mais eux, bah, peut-être qu'ils espéraient, forcément. Hein, disaient, il a l'air de faire chaud là-bas dedans. Mais ils n'en savaient rien. Hein. Par contre... leur décision, elle est claire. Alors, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer, ça on en est sûr. Il a déjà fait, pour d'autres, ils le savent, hein, c'est des juifs, ils connaissent l'histoire, ils savent que Dieu fait des miracles, mais ils n'ont même pas la prétention de dire il va en faire pour nous. Il peut le faire, mais s'il ne le fait pas, ça ne change rien. Nous, on ne va pas se prosterner devant toi, quoi. Et c'est assez incroyable de voir qu'en fait, ces hommes-là ont un pouvoir que même ce grand souverain ne peut pas briser. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché quand on a le petit film qu'on a écouté sur l'Érythrée, c'est la personne qui dit, en fait, on ne peut pas arrêter l'Évangile parce que quand on nous arrête et qu'on nous met en prison, ben, c'est les gens qui nous gardent qui sont touchés, quoi. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas. D'ailleurs, ça fait depuis que le christianisme existe, et là, c'était avant le christianisme avec les juifs, hein, les persécutions ne peuvent pas arrêter la vérité, ne peuvent pas arrêter le message, ne peuvent pas arrêter. Au contraire, hein, parce qu'on va le voir, la conclusion de ça, c'est que finalement, il y a plein de gens qui sont touchés par ce qui s'est passé. Quoi. Et l'attitude de ces hommes-là est extraordinaire. Et puis honnêtement, moi, quand je lis ça, je me dis toujours, mais franchement, petite courbette devant une statue, moi, il me semble que je l'aurais faite, quoi. Hein, en disant à Dieu, écoute, ouais, c'est, je croise les doigts derrière, c'est pour de faux. Et puis, je fais comme tout le monde, et puis on me fout la paix, quoi. Hein. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, quoi. Mais souvent, j'ai cette impression-là. Et puis après, je me dis, non, je ne crois pas. Je crois que Dieu nous donnerait aussi la conscience de, quand c'est nécessaire, de ne pas plier le genou, le courage de le faire. Moi, je ne suis pas courageux, donc je n'ai pas envie hein, d'aller brûler dans un four. Ouf, quelle horreur. Mais voilà, quand c'est le moment, quand on est dans l'épreuve, Dieu est là avec nous. Puis, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce que sinon, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, ces gens-là, peu importe l'époque où ils ont vécu, c'était des êtres humains. Qui peut regarder tranquillement l'idée d'être jeté dans un four ? Hein, la fournaise, juste pour préciser, c'était plus qu'un feu. Déjà, c'est horrible un feu, mais c'était les grands fourneaux en briques qui étaient construits, parce qu'à cette époque-là, déjà, on fondait du métal, hein, qui étaient prévus pour fondre du métal. Donc, vous imaginez un peu le truc. Quoi. Historiquement, je me suis renseigné, parce que je trouvais ça un peu particulier. On a retrouvé même des inscriptions à côté de Babylone. Marqué ici a péri quelqu'un qui voulait pas adorer les dieux du. C'était sur un de ces fours comme ça, quoi. Donc voilà, c'était ces grands fours hein, en briques réfractaires. Et puis ils chauffaient là-dedans, puisque c'était fait pour fondre du métal. Et puis on jetait les gens dedans, quoi. Et il n'y a aucun être humain qui peut envisager une mort comme ça en restant tranquille et serein et puis répondre au roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. C'est pas normal, hein. C'est pas naturel. Mais on voit avec l'exemple d'Étienne aussi, ils sont en train de le lapider, hein, de jeter des pierres dessus, donc de le tuer en jetant des pierres. Et puis qui pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, on peut se dire, ouais, lui, il était Dieu, il a fait ça, c'est exceptionnel, quoi. Mais on a des tas de témoignages d'hommes qui l'ont fait, d'hommes et de femmes, bien sûr, de femmes et d'hommes, il faudrait dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est dans ces situations-là, Dieu sera avec nous. Hein. Et puis, ben, je crois qu'on le sait parce que, alors, on n'a pas vécu ces choses-là, on n'est pas dans des pays où ça se vit, mais on a quand même des difficultés, on a quand même des épreuves, certaines sont plus difficiles que d'autres. Et je crois qu'on a tous pu expérimenter que Dieu est avec nous dans ces épreuves-là aussi. Hein. Même des choses où on a dit avant, moi ça, si ça m'arrivait, alors ça jamais je pourrais supporter une chose pareille. Et puis la chose arrive, et puis on ne meurt pas. Et puis surtout on découvre que oui, c'est difficile, mais Dieu nous porte à travers. Hein. Alors maintenant, je reprends un petit peu mon histoire, parce que je me suis arrêté, mais il n'y a pas trop de suspense, vous connaissez la fin. Hein, mais, ils sont jetés tous trois ligotés dans la fournaise, en plus il y avait beaucoup d'attention, on leur laissait bien leurs habits les plus épais, hein, pour être sûr que ça s'enflamme. Hein. Et donc, je reprends là, verset 23. « Ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment. » Et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ?» Et ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté. » Eh bien, reprit le roi, « Je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage, et le quatrième à l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabucodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors le roi s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas de décombres parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bon, il avait tout compris, le roi, parce que maintenant il allait persécuter tous ceux qui ne voulaient pas croire en Dieu. Quoi. Enfin, c'était particulièrement bien. Mais au-delà de cette histoire qui est une histoire que la Bible nous raconte, qui est une histoire vraie, hein, mais On peut voir pour nous aussi une application dans le fait que ces hommes-là sont jetés liés dans le feu et la seule chose qui brûle, c'est ce qui les avait attachés. Le reste, ça ne brûle pas, hein, puisqu'ils se retrouvent détachés. Et je crois on peut tous se rappeler de ce qui s'est passé dans nos vies quand on a traversé des épreuves particulièrement difficiles. Ça a détruit en nous des choses qui n'étaient pas bonnes. Et ce n'était pas agréable, on n'avait pas envie d'y aller. Il a fallu nous jeter dedans parce que si l'épreuve ne tombe pas dessus, on ne la choisit pas. Hein. Ça, c'est normal, on n'est pas là pour la chercher. Mais quand elle arrive, en fait, on réalise qu'elle fait un travail qui est utile. Elle brûle des choses, elle détruit ce qui n'est pas bon, ce qui nous tenait attachés. Et par contre, ben, y a ce quatrième homme qui se retrouve toujours là. Hein, vous savez, cette citation que je cite au moins 368 fois par an, de Paul Claudel, Jésus n'est pas venu enlever la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. Le message essentiel de l'évangile, c'est que Christ est en nous. Il n'est pas loin, il n'est pas quelque part ailleurs, il n'est pas, je ne sais pas où il faudrait le rejoindre. Christ en nous. Et nous sommes le temple de Dieu. Et nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu par notre esprit, en communion avec son esprit, dans le secret de nos cœurs. On vous parlera bientôt un petit peu de ce qui est sorti de nos méditations et partage dans notre rencontre, notre retraite sur le chalet avec Mathieu et Marc. Mais une chose sur laquelle on est beaucoup revenu, c'est sur le fait que la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on vit avec Dieu dans le temple secret de nos cœurs, Christ en nous. C'est ça l'évangile. Après, ça prend des formes comme ça veut. Il y a une salle, il n'y a pas de salle, il y a des gens, il n'y a pas de gens. Mais il y a Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. C'est une réalité. Et ce quatrième homme de la fournaise, ils l'ont rencontré à cet endroit-là. Et c'est vrai que pour nous, des fois, ce n'est pas simple de rencontrer Dieu dans le temple de notre cœur. Par contre, dans les moments de difficulté, de persécution, si à notre niveau on peut en avoir, d'épreuve, il est là immédiatement. Là, il est dit qu'au moment où ils ont jeté les trois hommes dedans, ils en ont vu quatre, quoi. Ils n'ont pas brûlé un quart d'heure, puis après il est venu les aider, quoi. Hein. Non, il était là immédiatement, et puis il était avec eux. Parce que si on est honnête, on est exactement dans la situation de ces gens qui disent « Dieu peut me délivrer, mais je ne sais pas s'il va me délivrer ». Quand on a une maladie, on prie, on sait très bien, Dieu peut guérir les malades, il a déjà fait des milliers de fois, et il peut le faire aujourd'hui, et il le fait des fois, mais honnêtement, souvent, il ne le fait pas. Et quand on a d'autres difficultés, qu'elles soient, enfin, peu importe les difficultés, on prie, et on sait que Dieu peut nous en délivrer. Mais si on est honnête, on n'est pas sûr qu'il va le faire. Pas par manque de foi, hein. Dieu a la capacité de le faire, comme ça. Mais on sait très bien que souvent, il ne le fait pas. Hein. Par contre, il y a une chose qu'on est sûr, et c'est la seule chose qu'on est vraiment sûr, dont on est vraiment sûr, c'est qu'il sera avec nous là-dedans. Parce qu'il a lui-même pas reculé. Jésus a été jusqu'à Gethsémané et puis jusqu'à la croix. Et à chaque instant, il pouvait faire demi-tour. Quand Pierre sort son épée et coupe l'oreille du soldat romain, c'est juste parce qu'il n'était pas doué, parce que c'est la tête qu'il voulait couper, bien sûr, c'est pas l'oreille. Hein. Non, mais sérieusement, il voulait défendre son maître, quoi. C'était un pêcheur, c'était pas un soldat. Et Jésus lui dit, mais tu crois que je pourrais pas avoir là une armée d'anges qui viennent et qui réduisent les Romains et tout le reste et tout. Je suis pas obligé. J'ai choisi d'aller jusque-là pour vous. Et il a fait ça pour que nous soyons jamais seuls dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la dernière épreuve que sera le passage de cette vie à la vie d'après, ce qu'on appelle la mort. Nous, on ne sera jamais seul. La plus grande solitude qui puisse exister sur cette terre, c'est ce que Christ a vécu à la croix quand il dit « Père, tu es où, quoi ? Tu m'as abandonné. » Mais c'était un choix. Lui, il l'a fait pour nous. Hein. Il a vécu la solitude la plus totale et la plus absolue qui puisse exister. La mort n'a pas pu le retenir. Hein. Il est sorti. Ce n'était pas une fournaise, c'était le tombeau. Et il a fait cela pour que nous ne soyons jamais seuls. Alors, Si on disait ce matin, vous savez, marchez avec Dieu, vous n'aurez pas de difficultés, croyez en lui, il va vous aider, et puis tout ira bien. Il va vous aider, oui, tout ira bien, j'en sais rien. Dans ma vie, c'était pas toujours bien, c'est pas toujours bien. Ça ira peut-être pas toujours bien. Mais par contre, on est sûr d'une chose, il y aura toujours ce quatrième homme qui va venir. Et Dieu va utiliser, il ne nous souhaite pas des souffrances, c'est pas lui qui les fabrique pour nous, mais on est dans un monde qui est tordu, pourri, corrompu et tout le reste. Elles arrivent toutes seules. Des fois, on se les fabrique nous-mêmes, ça dépend. Mais peu importe la cause, dans l'épreuve, il va s'en servir pour enlever des choses qui nous gênent, qui nous entravent, qui nous empêchent de quoi ? De le rencontrer, lui, dans le temple de notre cœur. Et de vivre là, dans ce secret, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, d'unique. Je relis de temps en temps, même si maintenant ça devient un peu de l'histoire ancienne, les livres de Richard Wurmbrand, cet homme qui a passé de très longues années, plus de 14 ans en prison en Roumanie. Et après être sorti, bien sûr, hein, il disait peut-être pas ça pendant qu'il y était. Après ces 14 ans d'emprisonnement où il a été des fois torturé à l'isolement et tout, il disait, c'était les meilleures années de ma vie. Honnêtement, je ne pense pas qu'il voulait retourner en prison. D'ailleurs, il s'est enfui et quand il a pu, il est parti dans un autre pays. Hein. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que j'étais proche de crise en ces moments-là comme je ne l'ai jamais été après. Mais pas qu'il regrettait la prison, encore une fois. Parce que, oui, là, ça enlève tout ce qui fait que d'habitude, prendre du temps avec Dieu, j'ai déjà lu mon petit verset ce matin, j'ai parcouru mon expresso, c'est bon. Mais quand les vraies difficultés vous tombent dessus, là, hein, celles qui vous empêchent de dormir, qui vous coupent l'appétit, qui vous nouent l'estomac, qui vous demandent comment vous allez vivre encore une heure, là, tout d'un coup, on a envie qu'il soit là. On a envie à un point, on n'a rien envie de plus, on n'a rien envie d'autre. Chaque respiration est une supplication pour dire, Christ, j'ai besoin de toi, mais ce n'est pas des mots. On ne peut même pas dire des mots, d'ailleurs, dans ces moments-là. Hein. Et là, il est là. Il est là. Il est là. Et puis, il est là de façon présente et continue. Hein. C'est que des points sur la ligne du temps, les uns derrière les autres. C'est pas il a été là, non, il est là, il est là, il est là, et il nous porte au travers de tout ça. Et il y a des illustrations, alors bien sûr c'est de la typologie, mais c'est dit ailleurs, on peut le dire. Une chose qui est magnifique, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis, alors on voit que leurs habits n'ont pas brûlé, ça c'est incroyable, leurs cheveux, moi ça serait, on n'aurait pas vu la différence, mais eux étaient encore là, hein, leur barbe n'a pas brûlé, et il y a ce petit détail qui dit, on ne sentait même pas l'odeur du feu. Et ça, c'est magnifique parce que ça nous montre comment quelqu'un qui vit avec Dieu sort de l'épreuve sans amertume. Dimanche dernier, je ne vais pas donner des noms pour ne pas gêner les gens, mais à l'après-midi festif des aînés, on a eu plusieurs témoignages, très beaux témoignages, et certains témoignages d'épreuves honnêtement très 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 difficiles. Et ce qui me touche toujours quand j'entends ce témoignage, c'est de voir qu'il n'y a pas d'amertume dans la vie de cette personne. Pas d'amertume. Puis on pourrait se dire quand même, Dieu, si tu existes, tu m'as fait ça, ou tu as permis, ou tu as laissé faire, peu importe la théorie qu'on a. Hein. Mais en tout cas, il m'est arrivé ça, et moi je suis ton enfant, et puis j'ai perdu ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et puis il n'y a pas d'amertume. Et on se dit, mais comment c'est possible ? On ne sent pas l'odeur du feu. Pourquoi ? C'est un miracle, parce que Christ était là dans l'épreuve et fait qu'on peut sortir de ces choses-là. Parce que quand même, honnêtement, si, puisqu'on a vu, hein, on sait qu'il peut nous délivrer, et quand il ne le fait pas, il y aurait de quoi être amer. Hein. Puisque Dieu peut guérir les malades, pourquoi les gens qu'on aime meurent ? Puisque Dieu peut faire ça, pourquoi ? Puisque Dieu peut empêcher que, pourquoi ? Mais en fait, parce qu'on le vit avec lui, on peut après ne pas porter avec nous cette odeur de feu, et puis c'est terrible l'amertume. L'amertume, c'est le cancer de l'âme. Ça fait des gens qui sont... Ah, quand on croise des gens amers, c'est plus facile de visiter un mourant que de visiter quelqu'un d'amer. parce que c'est terrible, hein, surtout quand on arrive un peu tard dans la vie et que les gens sont remplis d'amertume. C'est terrible. Parce que ça démontre une chose, c'est que malheureusement pour eux, hein, et j'accuse pas les gens qui sont comme ça, surtout pas, hein, c'est un drame pour eux, c'est qu'ils ont vécu sans que Christ soit avec eux pour transformer la douleur en douceur, pour cicatriser, pour mettre de l'huile sur les plaies. Et pour après, oui, ça fait toujours mal, c'est toujours peut-être difficile, mais il n'y a pas cette odeur de cramé, hein, qui reste et qui fait que c'est désagréable. Et puis ben, finalement, la fin, c'est que ce roi-là, qui devait être quand même un sacré fou, hein, il finit en faisant une publication, et puis, bon alors, ce qu'il fait, c'est aussi stupide que ce qu'il avait fait avant, hein, puisque maintenant, il va brûler la maison des gens qui ne veulent pas croire dans le Dieu des Juifs. Ça montre sa finesse d'esprit. Mais quand même, il dit ceci, il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Et ça, c'est assez incroyable, quoi. Et moi, je pense aussi que quand on traverse des épreuves, même nous ici dans nos pays, hein, on ne va pas en prison pour notre foi, qu'on traverse des épreuves avec Christ et on ne s'en rend pas compte probablement, mais ça produit cet effet sur les gens qui sont autour de nous. On n'a pas l'impression avec ce texte que le roi est devenu pour autant un vrai croyant, hein, parce qu'il a à peu près rien compris. Mais il est obligé de constater une chose. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse faire cette chose-là. Et je crois que c'est une chose qu'on entend, même si des fois, nous aussi, on est un peu déçus après parce que ça n'a pas les résultats qu'on espérait. Mais quand les non-croyants voient comment on vit certaines épreuves, ils disent « Alors ça, je n'avais jamais vu. Ça, c'est spécial. Ça, c'est... » Ils rendent ce témoignage à Dieu. En même temps, après, ce n'est pas pour ça qu'ils lui donnent leur vie. Hein. Mais bon, Jésus a fait des miracles extraordinaires et les gens qui avaient vu ces miracles, quelques semaines après, ont dit « Crucifiez-le ! Ah, pourri, allez-y !» Ça, c'est l'être humain, et puis on est pareil. Hein. Mais en tout cas, Dieu est glorifié dans ce sens-là, c'est qu'il y a un constat qui est quand même presque obligatoire à faire, c'est « Waouh !» Je ne sais pas comment ça se fait, mais il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse faire cette chose-là. Alors, je termine avec ça. On a eu des épreuves, on en aura d'autres, des plus faciles, des plus difficiles, peu importe. Mais on doit se rappeler ça. Et puis quand on prie pour nos frères et sœurs qu'on ne connaît pas dans tous ces pays où ils souffrent beaucoup plus que nous, hein, on ne doit pas se sentir coupable de souffrir moins nous ici, parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais par contre, on peut prier pour eux en sachant qu'on ne sait pas si Dieu va les sortir de prison ou non. Hein. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui meurent pour leur foi tous les jours. On prie évidemment pour que ça n'arrive pas, parce qu'on sait que Dieu peut le faire. Mais par contre, on sait que Jésus sera avec eux, ça c'est sûr. Et puis qu'il va les aider à traverser ça. Et puis, c'est vrai que pour nous, la pire chose qui puisse arriver, c'est perdre sa vie. Mais du point de vue de Dieu qui nous attend de l'autre côté, c'est pas la pire chose. Hein. Oui, c'est la façon, ce qu'on vit avant peut être terrible, c'est surtout ça. Hein, et on sait que là aussi, Dieu nous garde. Partir un peu plus tôt, le rejoindre qu'un peu plus tard, est-ce que c'est si terrible que ça? Pas forcément. On doit accepter que Dieu nous libère de la culpabilité pour pouvoir prier correctement pour ceux qui sont dans les épreuves. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Ou on va le faire une fois par an, le dimanche de l'église persécutée, puis vite, on passe à autre chose. Parce que, vous savez, c'est comme aller visiter quelqu'un qui vient de perdre un petit enfant. Ou quelqu'un qui, pourquoi ça nous bouleverse au-delà du fait qu'on aime la personne? Parce qu'on se dit, si ça lui arrive à lui, ça pourrait m'arriver à moi. C'est ça qui nous fait réellement peur. Hein. Au fond du tout. Et c'est pour ça que si on ne comprend pas et si on ne réalise pas que, évidemment que je ne veux pas que ça m'arrive, ces choses-là, mais si ça m'arrive, je sais une chose, Dieu sera avec nous. Et puis, il va nous permettre de traverser des choses que, honnêtement, on n'est aujourd'hui pas capable de les supporter. Et puis, il ne faut pas essayer de se mettre maintenant dans la situation où ça serait si on y était, parce qu'on n'en est pas capable. on ne reçoit pas la grâce à l'avance. On la reçoit au moment où on y est et seconde après seconde. Et même quand on est dans l'épreuve, on ne reçoit pas la provision de Dieu pour le mois d'épreuve à venir. On la reçoit comme au goutte à goutte, comme par perfusion. Hein. Parce que, en fait, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est qu'on vive avec lui chaque seconde de nos vies. Alors, oui, il ne fabrique pas les épreuves exprès, mais quand elles arrivent, parce qu'elles arrivent, hein, ben, il les utilise pour qu'au moins dans ces moments-là, on vive ça et qu'on réalise que c'est possible de vivre avec lui dans le secret du temple de notre cœur, seconde après seconde, seconde après seconde. Ces secondes deviennent des heures, des jours, des mois pour certaines personnes, des années. Et puis, on vit avec lui. Hein. Et ça produit quelque chose qui est extraordinaire. Ça forme... on découvre, c'est paradoxal, mais Dieu se trouve là aussi dedans. Et on doit apprendre à faire face à ses pensées, parce que la vie n'est pas gentille, non, elle n'est pas facile non plus. Alors on ne se lève pas tous les matins en se disant qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, qu'est-ce que je vais avoir. Non, ça vient tout seul, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais malheureusement, ça vient dans une vie d'humain, ça vient, ça revient et ça revient. C'est comme ça. Mais en même temps, Christ ne part pas. Il est là, il est là, il est là, et il est là. Et il veut nous apprendre à vivre avec lui, à découvrir comment, quand on n'en peut plus, quand on n'y arrive plus, quand on n'est pas capable, c'est lui qui prend le relais et qui nous porte et qui continue.